This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 72e épisode d'un épisode et j'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Séries, en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de débat autour d'une série, et surtout d'une série seulement cette semaine, une fois n'est pas coutume, mais toujours bien sûr dans le bonheur critique et la joie journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés pour cet épisode, Émilie Semiramoth de Vanity Fair et Glamour. Hello Émilie.
Salut Pierre.
Anne Ligon des Fiches du Cinéma. Salut Anne.
Salut Pierre.
Et Julia Baudin de TV Mag. Bonjour Julia.
Bonsoir Pierre.
Et comme annoncé, une seule série au menu qui le mérite bien, Ad Vitam, nouveau drame d'anticipation qui débute ce jeudi 8 novembre sur Arte, série co-créée, écrite et réalisée par Thomas Caillé, césarisée pour Les Combattants en 2015, une des bonnes nouvelles de la rentrée sérielle française, qui en compte d'autres d'ailleurs, sur la table critique de l'ACS et qui nous offrira une bonne excuse pour revenir sur les autres séries d'anticipation hexagonale, un petit peu si on a le temps, pourquoi pas. Allez, c'est parti.
70.
Vous êtes loin du compte.
80. 90. Plus de 100.
119.
Vous vous foutez de moi.
La pure vérité.
Et vous êtes à votre première reconversion à 119 ans. Moi j'en ai 63, je suis à ma troisième. C'est quoi ce job de rêve?
Vous savez, on va coucher ensemble.
Pardon ?
Depuis tout à l'heure, je me dis que c'est inévitable.
Là, je vous rassure, c'est tout à fait évitable.
Ce soir, peut-être. Mais pour deux êtres infinis dans un monde fini. À long terme, la probabilité pour que vous et moi n'ayons aucun rapport sexuel tombe vers zéro.
Un extrait de la première scène d'Ad Vitam qui s'ouvre le soir des 169 ans de la doyenne de l'humanité, une jeune japonaise en pleine forme dans un monde où l'on ne vieillit plus puisqu'une technologie permettant de régénérer l'ensemble de nos cellules a été inventée. Les adultes se sont figés dans leur corps, comme Darius Asram, un flic interprété par Yvan Attal, c'est lui qu'on entendait, qui a presque 120 ans mais en paraît 50. Le principal problème de cette société éternelle, c'est sa jeunesse en colère, coincée dans ce qu'ils appellent une salle d'attente de la vie jusqu'à leurs 30 ans, c'est l'âge de la majorité. Une situation qui pousse certains à se suicider, un geste illégal dans cette société où la mort est une aberration. Darius va mener l'enquête sur un suicide collectif avec l'aide de Krista Novak, la remarquable Garance Marillier, une ancienne membre d'un groupe de jeunes suicidaires recluses dans un centre hospitalier. Leur relation va changer leur regard sur le monde et la vie. Voilà pour le pitch, chers amis. Avant de creuser notre analyse, faisons simple. Avez-vous aimé Ad Vitam? Ça, c'est pas plus simple comme question. Julia, c'est parti.
C'est très étrange parce que j'ai pas du tout aimé la première fois.
À Série Mania.
Oh, même
ah, c'est marrant. Oui.
J'avais pas aimé Trépalium, j'avais pas aimé Transfert.
Qui étaient les deux premières séries d'anticipation d'Arte.
On peut considérer que ce sont les deux premiers volets d'une trilogie. Et puis je l'ai regardé à nouveau en préparant ma venue sur ce plateau et j'ai trouvé ça bien meilleur. Au deuxième visionnage, parce que j'ai vu ce que j'avais pas vu de prime abord.
L'écran était très très grand à Cérémonie.
Peu importe. Pourtant, j'ai trouvé que c'est une histoire d'une très très grande mélancolie et que, à ce titre, c'était intéressant.
C'est une première, Pierre.
C'est curieux parce que on en parlait avec Anne, on a la même expérience, c'est-à-dire que la première fois en avril dernier, c'est pas très bien passé et j'ai donc revu les deux premiers épisodes là avec la sortie de la saison entière et là oui, effectivement, je suis plus rentrée dedans et je pense que du coup, c'est quand même assez révélateur d'un problème de construction et d'écriture à la base de la série. Je pense qu'elle est peut-être pas facile à aborder et qu'elle manque peut-être un petit peu d'ouverture.
En revoyant, puisque j'ai eu exactement la même impression,
ouais, c'est très parlant,
et en revoyant le premier épisode, j'ai vu une richesse et tout un tas de choses que j'avais pas du tout vues.
Je t'ai passé à côté aussi.
Et vraiment, mon premier mouvement n'a pas été enthousiaste du tout.
Alors, je suis le premier à avoir été enthousiaste d'entrée de jeu des séries Mania. Moi, j'ai trouvé ça très fort, très sensoriel. En fait, j'étais vraiment absorbé dans le... J'ai pas cérébralisé la relation à la série. C'est-à-dire que je l'ai vécu dans ma chair dans une première fois. Mm-hmm. Et c'est quand je l'ai revu en format télé avec l'intégralité des épisodes que là, je me suis un peu plus amené à réfléchir, à penser à ce que la série disait de la jeunesse, de la mort, évidemment, on va en parler aujourd'hui. Mais d'abord, j'ai été pris par l'émotion, par l'image, par la musique, ça aussi on va en parler, mais mon premier sentiment quand je suis sorti de la salle à Série Mania, c'était de dire ah, on tient un truc là. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Émilie, on va peut-être creuser un petit peu ça aussi. Il y a un léger problème de structure peut-être dans la longueur des épisodes, dans le moment où on sent que peut-être c'était là qu'il fallait arrêter la narration. Voilà, bon, il y a plein de pistes de réflexion. On est au moins tous d'accord autour de cette table que c'est une série très intéressante qui dit beaucoup, ouais, de choses passionnantes, y compris de ce que c'est qu'une série télé, et on va en parler évidemment. On parlait de Trépalium et de transfert. Est-ce qu'on peut, tu l'as dit Julia, l'inclure dans une forme de trilogie ? Et dans ce cas, peut-être, on avait dit que Trépalium et transfert étaient des tentatives ambitieuses mais plutôt décevantes. Qu'est-ce qui fait peut-être que Ad Vitam, cette fois-ci, est une franche réussite ?
D'un point de vue uniquement esthétique, mais on en parlera ensuite, je crois, j'ai trouvé très simplement que c'est pas une série cheap, alors qu'elle n'est sans doute pas réalisée avec plus de moyens que les deux précédentes, voire peut-être avec moins d'argent. Il n'y a pas de recherche de futuriste absolu qui voudrait nous faire croire qu'on est dans le futur, alors que ça ne peut pas marcher, puisqu'on n'a pas les moyens. Y a pas de... dans Trépalium, il y avait des pistolets en plastique, ouais, qui avaient été récupérés dans les coffres à jouets des gamins de la guerre des étoiles. Voilà. Et alors que là, non, il n'y a rien.
C'est un futur qui, esthétiquement, a quand même certaines spécificités, mais qui n'est pas sur... Il n'y a pas des voitures volantes.
Il n'y a pas de voitures volantes.
Il y a des voitures tunées.
Elles sont toutes électriques avec des lumières en dessous. Voilà.
Il n'y a pas de voiture tunée stupide comme dans Section Zéro, qui était la catastrophe absolue de l'anticipation.
Mon cerveau l'a déjà oublié.
De ces dernières années. Il y a juste le futur nous est montré par des effets de lumière et de mise en scène de lumière. Et ça, je trouve ça remarquable. Après, il y a des problèmes de structure. Vous en parlerez mieux que moi. Mais j'ai été très frappée par la lumière de cette série.
Très intéressante. Alors, c'est tourné à Benidorm, hein, en Espagne. Comment s'appelle ce film ? Le monde nous appartient. Zut, il y a eu un film avec Karim Leclou qui est sorti cet été et qui déjà se passait dans cette ville, qui est un monstre de béton construit au bord de la mer. Et ils ont exploité le lever du soleil et le coucher du soleil énormément. Et la nuit, parce que le jour s'est écrasé par le soleil et c'est tout à fait, ouais, bétonné et pas du tout agréable. Peut-être un mot sur Thomas Caillé, parce que j'ai dit dans l'introduction que c'est quelqu'un qui a eu un César pour Les Combattants. Je ne sais pas qui a vu Les Combattants autour de cette table. Mmh. Anne, tu l'as vu. Ouais. Il y a quand même une thématique commune, ouais, il y a une énergie entre ces deux personnages féminins qui est partagée. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu pour présenter le...
Il y a certainement le désir de mettre en scène la jeunesse, hein, et comment elle trouve sa place. Hein. Alors, c'est un peu inversé, parce que dans Les Combattants, l'héroïne veut survivre dans un monde qu'elle voit comme décadent et qui va à sa perte. Hein. Alors que là, on a affaire à une héroïne qui voudrait mourir dans un monde qui lui a inventé l'immortalité ou l'éternité.
En tout cas, qui hésite
à
vivre.
C'est un monde décadent et qui, oui, va à sa perte d'une certaine manière, oui, aussi, même si il a vaincu la mort. C'est ça qui est intéressant.
C'est un monde fini, comme il le dit très bien dès son premier rendez-vous avec la fille du début.
Mais alors, c'est pas le même... Enfin, c'est le même genre d'héroïne aussi, effectivement.
En
mais...
colère, il y a une forme de colère.
Oui,
de...
oui, voilà. Et très...
C'est Adèle Haenel, hein, qui jouait dans Les Combattants, ouais, le rôle principal féminin.
Après, c'est pas le même ton. C'était dans Les Combattants, il y a un côté quand même plus léger. Mais il y a aussi un côté sur le... Oui, sur la réalisation, on retrouve des choses. Et sur le côté un peu road movie aussi, qu'il y a aussi un peu dans Ad Vitam.
Quand on dit que ça parle de la jeunesse, d'ailleurs Thomas Caillé lui dit c'est une série sur la jeunesse. On va parler évidemment de la vie éternelle, etc. Mais qu'est-ce que ça dit sur la jeunesse ? Qu'est-ce qui est intéressant dans le pur récit lui-même et aussi en perspective de la jeunesse telle qu'elle est aujourd'hui dans notre monde ? Émilie ?
Bah, il met en scène une jeunesse qui est comme dans le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas prise en compte, qui est qui est toujours mise de côté et qui n'a pas la place de s'épanouir et de réfléchir, de participer au monde d'aujourd'hui. Et en même temps, il parle aussi d'un jeunisme exacerbé qui aussi reflète tout à fait le monde d'aujourd'hui, où on refuse de mourir, ça c'est sûr, mais de vieillir encore plus, et où on cultive un culte complètement artificiel de la jeunesse, alors que la vraie jeunesse elle-même n'a pas de place. Exactement. Donc c'est cette contradiction-là, je trouve, qui met très bien en scène.
Oui, et il explique aussi à quel point... Alors, dans la série, la jeunesse se dit dans une salle d'attente, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas vous régénérer jusqu'à vos 30 ans. Mmh. Et ce qui questionne Thomas Caillet, c'est en fait, qu'est-ce que fait une jeunesse dans une société où on se redéfinit en permanence, puisqu'on est immortel. C'est-à-dire que la jeunesse, c'est ce moment où on dit, voilà, je serai ça. Voilà les valeurs que je vais défendre. Ça n'empêche pas d'évoluer un peu quand on est adulte, mais c'est là qu'on se construit. Est-ce que ça a encore un sens, une jeunesse dans un monde où on se reconstruit en permanence, où donc finalement cette période de recherche, de conquête de soi est annihilée par la permanence de l'existence. Donc ça, c'est intéressant. Et puis par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui, il questionne l'injonction contradictoire que tu soulevais, Émilie, entre d'une part affirmez-vous, développez votre identité, soyez vous-même. Donc faites ce que vous avez envie de faire au final. Êtes ce que vous... Soyez qui vous avez envie d'être et faites ce que vous avez envie de faire. Et en même temps, il n'y a plus de boulot, la planète va disparaître parce que on l'a polluée jusqu'à sa perte. Et donc en fin de compte, on nous vend un épanouissement que le monde dans lequel on est, enfin quand on est jeune,
c'est une fausse pub. Hein.
C'est voilà que le monde dans lequel on est publicité. N'est pas fait pour cet épanouissement.
Mais c'est dit clairement dans la série. Enfin, et dès le début, il y a des publicités alors pour le contrôle des naissances, puisque si on est immortel, voilà, ça va poser un problème de place. Et justement, c'est des jeunes. Le slogan, c'est clairement, on a besoin de place. Il nous faut de la place.
Il est question d'ailleurs dans la série d'un référendum sur le contrôle des naissances.
Voilà, mais c'est à ce sujet-là et qu'il y a des publicités où les jeunes eux-mêmes disent il me faut de la place.
Je crois qu'il y a un truc encore plus grave que ça, c'est et qui est probablement assez révélateur d'une question sociétale très actuelle, c'est au-delà de la place de la jeunesse, c'est cette incapacité dans laquelle se sont mis les couples de parents à transmettre, à porter, à aider leur enfant. Puisque là, on a affaire, et ça, on le ressent très bien dans la relation entre Christa et ses parents, qui sont à peine plus âgés qu'elle, qui ont transformé la chambre de l'enfant
en salle de régénération.
Le lit a été remplacé par un caisson de régénération et qui sont incapables, de lui transmettre quoi que ce soit. Ils sont même pas capables de lui transmettre de l'affection.
C'est une série sur la transmission. Oui.
C'est une série sur la transmission
qui n'existe plus.
Parce qu'il n'y a plus de transgénération, il y a plus de génération
aussi de l'évolution. C'est le personnage de Ariane Labed qu'on découvre vers la fin de la série qui parle de la jeunesse en disant qu'elle a toujours ce culte de la jeunesse parce que c'est la jeunesse qui renouvelle le monde, qui le réinvente. Sauf que là, il peut plus se réinventer puisque de fait, la jeunesse est en train de mourir.
Alors un mot quand même, on parlait de l'énergie du personnage féminin, Christa, on parlait d'Adèle Haenel, quand même un mot de Garance Marelli avant de parler un peu plus de la mise en scène et de l'écriture de la série. C'est quand même, moi je ne vais pas le cacher, je la trouve absolument remarquable. Et je pense que si Grave c'était un peu un petit film, tout le monde a dit « c'est quoi cette actrice ?» Non mais un petit film au sens où c'était pas non plus... moi j'ai pas trouvé que ça soit un grand film, mais c'est mon point de vue personnel. Mais en tout cas, elle était très impressionnante. Pour moi, c'est vraiment la confirmation. Parce que ça peut, sur un coup de tête comme ça, il y a un rôle qui peut vous faire passer devant. Là, elle confirme quelque chose quand même.
Alors, on n'est pas d'accord sur Grave. Pour moi, c'est un grand film qui traite de choses vraiment très intéressantes sur l'émancipation féminine. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. Garance Marelli, en plus, je l'avais vue dans le premier court-métrage qu'elle avait tourné avec Juliette Ducournau, donc la réalisatrice de Grave, et qui, à l'âge de 13 ou 14 ans, je crois, était déjà mais hyper impressionnante.
Donc, elle joue 24 alors qu'elle en a 20, je crois, là. Hein. Dans la série, elle dit 24, mais elle est un peu plus jeune que ça.
Oui, c'est pas bien méchant et ça ne porte pas préjudice au personnage, à son rôle. Et effectivement, elle porte en elle une maturité, je trouve, qui est assez impressionnante pour une si jeune femme, effectivement, de seulement 20 ans. Et je trouve que c'est vraiment la force motrice de cette série. Elle est impressionnante, cette fille. Je trouve qu'elle vampirise la caméra dès qu'elle est à l'écran. Elle est d'une puissance assez étonnante.
Oui, elle est d'autant plus impressionnante que le vieux flic est fatigué.
Oui.
Oui, enfin, mais Yvan Attal fait bien le mec fatigué par ailleurs. Oui, il s'en sort très bien.
Elle toute seule peut porter même la série. Je pense qu'elle a pas besoin de même. Bon, Yvan Attal, on va pas le dénigrer. Il est très très bien en plus dans son rôle. Et puis effectivement, comme tu le dis justement, il joue un rôle fatigué. Mais je pense pas qu'elle bénéficie de ce contraste-là face à ce caractère épuisé pour briller elle-même. Alors, elle pourrait briller même sans le personnage de Darius.
Tu t'appelles Krista Novak, t'as 24 ans. Mon visage te dit quelque chose?
C'est le même que tous les autres.
Tiens, non plus, ne me dis rien. Vous étiez tellement nombreux. Et puis t'avais 14 ans à l'époque. T'as dû changer. Enfin, j'espère. C'est la raison pour laquelle ils t'ont mis ici. Enfin, j'imagine. Bref. J'aimerais que tu regardes ça.
Pourquoi vous montrez ça?
On les a retrouvés hier. Un bon vieux suicide collectif comme du temps de tes petits camarades. Chacun un flingue sur la tempe et que la fête commence. Lui portait le même tatouage que toi. On pense que Saul a été réactivé. Écoute, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai besoin de toi. Je veux que tu retournes à Attenberg pour voir si tu peux reprendre le contact avec eux.
Alors, revenons à la base. On vient de l'entendre dans ce son-là. Ad vitam, c'est un polar d'anticipation. On s'en fout complètement que ça soit un polar ou ça joue quand même un rôle? Il y a une enquête. Il y a
oui,
des flics,
il y a
une enquête.
Il y a une enquête qui, pour une fois, est quand même un peu justifiée, puisqu'il s'agit d'un suicide collectif et qu'il y a une enquête. Là, moi, je suis la première à bondir en disant qu'il n'y avait pas besoin de mettre une enquête policière. Là, c'est une enquête et puis ça nous permet aussi, justement, d'enquêter sur ce monde-là et sur la façon dont les gens vivent comme ça. Là, moi, je ne suis pas gênée par le côté polar, même si... au bout d'un moment, l'enquête, c'est pas ce qu'on retiendra, ni même sa conclusion.
Je crois que Thomas Cahier le pense lui-même, non,
vecteur pédagogique,
je trouve que là, c'est pas complètement artificiel dans la mesure où cette histoire de suicide, qu'on mette un enquêteur dessus, bon, ok, c'est assez.
Bah, surtout dans un monde où c'est illégal de suicider.
Oui, ça... bien sûr, voilà. Oui.
Même aujourd'hui. Hein.
Ah oui, là, tu m'apprends un truc là.
Non, enfin, c'est illégal, il n'y a pas de loi officielle, mais.
Mais il y a une enquête qui est menée.
Mais il n'y a pas de loi qui te permette de te suicider, donc ça laisse entendre que le suicide est illégal.
Très juste, effectivement. Mais du coup, Thomas Cahier le dit lui-même, c'est une œuvre assez polymorphe, ça commence vraiment comme un polar, ça évolue, on a parlé d'un road trip, on dira pas dans quel, à quel moment et comment ce road trip intervient. Est-ce que, niveau du rythme, on a cette impression, en tout cas moi je l'ai eu, je vais pas poser la question, je vais l'affirmer, sur 6 épisodes, il y a des changements de tempo, il y a des changements de point de vue, c'est finalement, on se dit presque, ça aurait pu être sur plus d'épisodes et on aurait pu switcher plus souvent, etc. Non, Émilie, t'as pas l'air d'être d'accord, mais c'est pas un rythme permanent. C'est une série qui bouge beaucoup.
Oui, ça bouge beaucoup, mais après, je trouve que c'est pas forcément très bien maîtrisé. Ce changement d'humeur et ce changement de rythme et ce changement de genre aussi, parce que vraiment, il y a un changement de genre presque d'un épisode à l'autre. Non, pour le coup, j'aurais pas voulu en voir plus. Je trouve que ça se tient très bien en 6 épisodes. C'est un bon format assez efficace.
Ouais, je pense. Mais
que en plus, en glissant ça là, Arte va diffuser 2 épisodes par soirée.
Oui.
Alléluia.
C'est une bonne chose.
Voilà, ça c'est très bien parce que 3 ça fait beaucoup trop et ça nous permettra de prendre le temps, Anne.
Oui, non, sur le rythme, je suis complètement d'accord avec ce que dit Émilie. Ce qui est intéressant quand même, c'est ce qui est ambitieux, c'est de montrer tous les points de vue, alors à la fois des jeunes qui sont certains qu'on aperçoit qui sont très intégrés, il y a une allusion quand même à des jeunes qui sont parfaitement intégrés
dans la société,
qui ont l'air très propres sur eux et qui effectivement eux sont admirent la régénération et ils disent avant on mourait tout le temps. Alors évidemment aujourd'hui on est dans un monde nettement meilleur. Et puis il y a le point de vue des jeunes qui sont eux paumés par ce manque de transmission et ce manque de sens à leur vie et qui donc ont tendance à rejoindre des groupes. Alors là aussi, il y a en toile de fond une histoire d'église chrétienne, Voilà, je...
Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une religion, en tout cas. Ils veulent mourir, ils se laissent, enfin, c'est des gens qui décident de ne pas mourir.
Si, enfin bon, mais si, je veux pas en dévoiler trop, mais...
Ça prend pas une importance très, très, très grande dans la série, mais le personnage d'Anna Shigula,
il y a une référence à Dieu, etc. Pour moi, c'était un groupe de gens.
À une église. Pas un Dieu, mais à une église. Oui, ben, j'aime bien que tu parles d'Anna Shigula, parce que je trouve que la scène avec elle est formidable. Oui. Et qu'elle distille deux, trois propos philosophiques bien sentis.
On va en parler, justement, de ces propos philosophiques. Et de ce regard sur la mort de la série, parce que c'est ça aussi que la jeunesse d'une part, alors les deux sont liés, hein, évidemment, les deux se répondent. Aditam parle de vie éternelle, c'est une œuvre existentielle et métaphysique. Comment est-ce qu'elle aborde cette thématique? Qu'est-ce qu'elle dit selon vous? Comment et qu'est-ce qu'elle dit de l'importance de la mort? Puisque la série est plutôt pro-mort, si j'ose dire.
Oui, complètement, ouais. Honnêtement, je trouve qu'elle dit pas grand-chose de plus que ce qu'on a déjà dit auparavant et de ce qu'on déjà dit assez souvent les films de vampires. Et je pense notamment à peut-être mon film de vampire préféré de Jarmusch, Only Lovers Left Alive, qui vraiment explore complètement cette thématique sur la lenteur, l'ennui, la longueur, la fin qui vient pas, c'est impossible. Et du coup, bon, ça n'exploite pas grand-chose de plus là-dessus. Mais je trouve qu'il y a une espèce de variation sur le même thème du côté transhumaniste, du coup, qui est vraiment une préoccupation très actuelle et qui va devenir, à mon avis, politique dans très peu de temps avec les gens de Google et autres. Et de ce point de vue-là, du coup, le fait qu'on enlève l'aspect fantastique et qu'on l'ancre dans une réalité beaucoup plus contemporaine donne peut-être un peu plus de sérieux, je dirais, au sujet.
L'immortalité, la vie éternelle, c'est un des depuis que le récit fantastique existe, ça nourrit la littérature, le cinéma et la télévision et même la peinture. Il y a des grandes œuvres comme Faust, Dorian Gray, etc., où il est question de vie éternelle et où la morale de l'histoire, parce qu'il faut bien qu'il y ait une morale dans ces histoires aussi, sinon on est foutu, comme le dit bien la série, c'est que la vie éternelle, ça ne sert à rien. Il faut qu'il y ait une fin, parce que si la quête de l'immortalité, c'est peut-être une quête absolue de l'homme, et peut-être qu'on y arrivera effectivement grâce
au transhumanisme. Mais c'est sa quête qui définit l'homme, c'est pas l'accomplissement de la quête.
Voilà, c'est la quête qui définit l'homme et pas l'accomplissement, parce que l'accomplissement, c'est du vide, c'est le néant, c'est-à-dire que c'est la fin du sens de la vie. La vie n'a plus de sens.
Donc oui, voilà, il y a une expression qui est employée dans cette église qui est donc dont les membres vivent leur vie jusqu'à le vieil âge et la mort, qui s'accompagne dans la mort littéralement, c'est un homme accompli. Quand on meurt, voilà, on devient un homme accompli. Voilà. Et c'est ça que la série questionne aussi, c'est finalement le sens que la mort donne à l'existence.
Absolument.
C'est très simple. Et en revanche, par rapport à ces deux personnages, comment chacun vont prendre conscience, chacun à leur façon, à leur manière, dans leur propre trajectoire. On peut dire, sans spoiler, que le personnage joué par Yvan Attal a perdu son fils quand il était très jeune, donc est lui-même hanté par un fantôme. Elle aussi est hantée par un fantôme, celui de son amoureux, enfin de son amour de jeunesse. Et donc, l'un comme l'autre sont finalement terrifiée par la mort d'une façon ou d'une autre. Sauf que elle est tentée de s'y jeter, mais elle résiste. Et lui est tenté de la fuir depuis plusieurs décennies. Et donc la série va questionner comment l'un comme l'autre vont retrouver le souffle de vie en aimant, en créant un lien filial, en finalement redonnant un sens à cet héritage, à cette transmission dont tu parlais, Julia, tout à l'heure.
Ben, je crois qu'elle nous pose la question de savoir effectivement ce qu'on ferait si on pouvait ne plus mourir ou rester jeune éternellement, et que ça c'est quand même un questionnement éthique, moral, enfin, et c'est qu'est-ce qu'on choisirait. Et puis c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, la jeunesse éternelle, en général, derrière, il y a une histoire de pacte avec le diable, donc forcément, il y a quelque chose, voilà.
Il y a une histoire de perte de son âme, et c'est aussi le fil rouge de cette série.
Oui, ils disent retrouver, enfin, l'église, là, ce dont tu parlais, Pierre, ils disent aussi... quand on se laisse vieillir normalement, et les gens qui ont arrêté de se régénérer retrouvent leur vrai visage. Oui, c'est retrouver son âme, son vrai visage.
C'est pas pour rien que c'est le seul personnage, Christa, qui est véritablement en vie dans toute la série.
Oui,
c'est
parce
la plus vivante.
Parce que c'est un des rares qui a des désirs aussi. C'est une série qui est froide, qui est. Alors on va parler de l'esthétique justement, c'est intéressant.
Nous, on dit que la régénération, c'est une erreur ontologique. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
La mort ne peut être vaincue qu'en l'affrontant. Eux, ils ont seulement inventé un stratagème pour la fuir.
Et vous, vous avez déjà été régénéré?
Non. J'ai de la chance. J'ai tout de suite su. D'ailleurs, nous voyons de plus en plus de gens qui décident à renoncer à la régénération. Et ça, après 50 ans de traitement, ils veulent revenir à leur corps naturel, retrouver leurs sensations. Si tu verrais leur expression quand ils retrouvent leur vrai visage.
Voilà, Nachi Goula qui réexplique ce qu'on vient de dire, ouais. Finalement, cette scène dont on parlait. Et écouter comme ça, on réalise un truc, c'est qu'on entend de la nature, on entend les oiseaux, il y a l'eau qui coule derrière, etc. Là où c'est une série qui s'applique à ce qu'on n'entende aucun animal, rien. Et d'ailleurs, Thomas Caillet parle.
C'est le seul moment.
Thomas Caillet parle de l'importance d'avoir tourné à Benidorm, on va y revenir. Parlons un peu de ce monde dans lequel se passe la série, parce qu'il est important, surtout quand on parle d'une série d'anticipation, l'univers et comment va être créé joue beaucoup. Esthétiquement, quels sont les choix qu'a fait Thomas Caillet et en quoi ils accompagnent peut-être sa réflexion?
On parlait de Benidorm tout à l'heure, effectivement ça s'y prête dans le sens où c'est à la fois la beauté de la mer, du soleil et la laideur d'une ville complètement bétonnée. Finalement, parce que je n'étais pas très convaincue au départ, mais finalement, ça se prête assez bien, une forme d'intemporalité. Et puis, bon, après, c'est assez classique, il y a un travail sur la lumière, alors du jour, du soleil écrasant, de quelque chose de très éblouissant dans les scènes d'extérieur, et à l'intérieur, au contraire, quelque chose de très sombre, de très froid, de très bleu. Avec la thématique de l'eau qui traverse toute la série.
Et une opposition.
Donc ça pouvait que se passer au bord de la mer, de toute façon.
Il y a une opposition entre le monde des régénérés qui est très bétonné, très froid, avec des lumières bleuâtres, et le monde des jeunes, enfin en tout cas de la partie de la jeunesse qui
des vrais vieux.
Voilà, qui est plus anarchique, qui est plus dans les couleurs rouges, dans quelque chose de plus charnel, dans voilà, et les vrais vieux, voilà, par ailleurs, qui eux aussi sont quelque chose dans, voilà, en tout cas des couleurs plus chaudes, hein, comme on dit vulgairement. Voilà, c'est vraiment l'opposition centrale qu'a choisi de développer Thomas Caillet. Émilie, par rapport à ce monde je présentais la série comme une série pas charnelle, le mot m'échappe, sensorielle. Est-ce que ça, il y a que moi qui l'ai vécu ou non vraiment?
J'ai eu le même truc. Alors je savais pas avant de voir la série qu'elle avait été tournée à Benidorm. J'ai découvert après dans le dossier de presse, et donc je n'ai pas reconnu Benidorm parce que j'y suis jamais allée. Donc j'ai pas reconnu Benidorm.
On n'y va jamais. Je pense qu'il faut pas y aller.
Voilà, ça m'a convaincue de vraiment jamais y mettre les pieds. Mais ce que j'ai beaucoup aimé justement, c'est cette perte de sens. C'est qu'il y avait quelque chose qui m'était étrangement familier, parce que contrairement à Benidorm, je connais assez bien l'Espagne. Donc je reconnaissais quelque chose de l'Espagne qui m'était vraiment très cher et familier, et en même temps une distance, quelque chose de d'étranger, de style aussi, qu'il manie très bien, je trouve, à la caméra. Et donc voilà, il y a un côté, on vous emmène dans un univers que vous connaissez forcément quelque part, d'une manière ou d'une autre, et en même temps, ça n'a strictement rien à voir.
Ouais. Julia.
Il y a une topographie qui est intéressante aussi, parce qu'il y a des collines autour de cette ville. Il y a un désert, et quand il est face à la mer, on voit aussi des montagnes. Et donc tu parlais d'une série protéiforme tout à l'heure, mais le paysage aussi, il est protéiforme. Il y a une aridité, il y a la mer, il y a des lumières effectivement éblouissantes.
On a l'impression que c'est une ville un peu comme Las Vegas, hein, une ville qui a été créée de toutes pièces au milieu d'un désert.
C'est une dalle de béton, Benidorm. Oui. C'est vraiment
Il aurait pu tourner ça à la grande mode, sauf que c'est trop petit et que ça aurait été trop identifié et trop identifiable par le public français.
Mais il y a une grande étrangeté quand même de ce monde, de ce décor. C'est-à-dire ça qui est réussi, c'est qu'on pourrait être sur une île futuriste finalement.
Oui, mais c'est le travail de la lumière aussi qui exacerbe ça et qui l'autorise. Et je pense qu'on doit ça à quelqu'un qui vient du cinéma aussi, et quelqu'un qui viendrait uniquement de la télévision n'aurait peut-être pas réussi ça aussi bien. Enfin, je me pose la question.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un paysage urbain un peu abîmé. C'est-à-dire que c'est une Espagne aussi qui a connu une crise économique assez importante et qui est quand même marquée aussi dans son urbanisme, dans ses immeubles, dans ses trottoirs, dans sa configuration quotidienne par quelque chose qui fait défaut.
Alors Thomas Caillet tente des choses aussi visuellement. Anne n'a pas l'air convaincue. Il y a des effets, il y a toute une scène où on est dans une espèce de capteur de mouvement. Enfin voilà, ça tu n'as pas aimé.
Oh là là.
Ah, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'il y avait des prises de risque qui étaient un peu poétiques, il y avait des belles choses.
Ça fait partie des choses qui, à la première vision, ça n'a pas été possible, ça. Ah non, ça, je me suis dit, non.
Bah pourquoi pas ?
Bah parce que, comment te dire, j'ai besoin d'être dans un clip des années 80, que je ne vois pas l'intérêt, et que vraiment, non.
Ah ouais. Enfin, bah moi c'était non. Oui, désolé, on n'est pas d'accord là-dessus, mais Julia, Émilie,
je dirais que la prise
aussi,
de,
mais...
je dirais que la prise de risque de Thomas Caillet, elle tient plutôt à ce dont vous parliez tout à l'heure au sujet du rythme et des différences de rythme d'une séquence à l'autre et d'un épisode à l'autre, qu'il a avec lesquels il s'est amusé à mon avis ou avec lesquels il a fait des expériences en attribuant un rythme à chaque typologie de à chaque type de personnage et ça pour moi j'ai trouvé ça assez réussi. Après les petits artifices, même les caissons de régénération, on aurait pu s'en passer. Je pense.
C'est chouette la méduse. Ça. La méduse, c'est une méduse qui a inspiré le, qui existe vraiment d'ailleurs.
Oui, qui existe vraiment. Ouais. C'est pour ça que c'est pas sot d'ailleurs, parce que mais bon, ça part pas de
on est encore
part.
Loin de d'y arriver, je pense.
Non, mais ça existe la petite méduse qui ne vieillit pas.
Une dernière chose.
La Turritopsis neutricula.
Voilà, la Turritopsis neutricula. Merci, c'est noté.
Tout aller voir parce
voilà,
que c'est intéressant.
On va commencer à bosser là-dessus. Non, mais en tout cas, esthétiquement, c'est très beau. Voilà, ça apporte quelque chose de très chouette. Et comme le dit bien Thomas Caillet, c'est intéressant parce que c'est un animal qui ne fonctionne qu'en étant porté par le courant, et qui métaphoriquement est très intéressant puisque finalement ces hommes immortels, au bout d'un moment, ne peuvent qu'être portés par une société. Et comment veux-tu affirmer une identité et prendre ton propre chemin quand la vie est éternelle ? Une dernière chose qui est très importante, c'est la musique. On peut en dire un mot quand même, qui est faite par un groupe qui s'appelle Hit and Run, qui avait aussi composé la musique des combattants. Donc, électro... l'électro est pas permanente, mais c'est quand même essentiellement dominé par de l'électro. Ça joue beaucoup dans la vibration de la série, si j'ose dire. C'est ça que moi j'ai beaucoup.
Elle envoie un petit peu des petites décharges électriques qui viennent nous réactiver tout au long au fil des épisodes. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça. Elle est très belle cette musique.
Oui.
Il faut quand même rappeler que pendant la scène, à la fin de la scène avec Anna Chigula, dont on disait tout à l'heure.
Et deux fois, on la réécoute après d'ailleurs.
Et dont tu disais tout à l'heure que c'était la seule scène où on entendait le bruit de la nature, c'est aussi la seule scène où il ose passer du Schubert.
Ouais. La jeune fille est la mort.
Et la jeune fille est la mort.
Il la repasse dans un épisode après, si je puis me permettre. Je les ai revus récemment, il la repasse, mais ça a forcément du sens. Puis évidemment, enfin, c'est pas besoin d'être un spécialiste de musique classique pour identifier ce morceau-là qui. Bon, c'est. Tu passes la jeune fille et la mort dans Ad Vitam, ça paraît presque too much.
Une figure imposée.
Voilà, mais ceci étant dit, ça marche très bien et cette scène-là est très très belle. Et d'ailleurs, on va refermer sur cette scène-là, cet épisode 72 d'un épisode et j'arrête l'émission 100% série de la CS avec Binge Audio. Ne manquez pas Ad Vitam jeudi 8 novembre et les suivants sur Arte. Merci à Émilie Semiramode de Vanity Fair et Glamour, à Nelly Gond des Fiches du Cinéma, Julia Baudin de TV Mag et merci à Jules qui était à la technique pour cet épisode. La semaine prochaine, nous reviendrons sur la rentrée britannique des séries qui a été particulièrement solide cette année et débattrons notamment de Bodyguard, Wanderlust, To The Cry, enfin en tout cas tout un tas de séries qui ont commencé en Angleterre et qui sont très réussies. D'ici là, please likez nos profils Facebook et Twitter. Rien de mieux pour vous et comme pour nous de rester en contact et pour vous évidemment de ne pas rater les émissions quand on les met en ligne. Allez, salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.
Put it in, what?
That's the last one.